Tu peux prendre le micro à la main. Bah oui, ça c'est pas mal.
Donc nous sommes avec Alain Platiot, comédien et bruteur. Nous attendons Noël Guichard qui va nous faire le plaisir de nous rejoindre elle aussi. Ludo, je te laisse la parole peut-être pour débuter.
Oui, bah pour débuter, avant de revenir sur l'atelier que vous venez d'animer, une question bateau, mais inévitable. Vous êtes comédien de formation, puis vous êtes venu au bruitage ensuite ou...
On va rectifier, je ne suis pas comédien, c'est Noël qui est comédienne. Moi, je suis...
Ton travail est d'être bruteur, d'accord, parce que dans le programme, c'est annoncé Noël Guichard, comédienne, et Alain Platiot, comédien bruteur.
Nous l'avions vu sur un programme.
Bon. On va pas les disputer. Hein. Non, mais je suis arrivé dans le milieu artistique, et notamment bruteur, un peu par hasard, mais parce que les événements m'ont amené à être chômeur économique, hein, puisque la boîte dans laquelle je travaillais a été rachetée par les Américains. Il y avait eu un terme élégant à l'époque, qui l'est de temps en temps encore usité, c'est le terme de dégraissage. Il fallait dégraisser.
C'est en très fait, joli. Au revoir, plan social, c'est pas très beau non plus.
Non, mais dégraissage, je trouve que c'est dégueulasse comme terme. Donc je me suis retrouvé à être chômeur, au chômage, licencié économique, mais bon, à la recherche de travail. Et mon oncle m'avait plus ou moins tendu la main, puisqu'il est lui dans le milieu artistique depuis, il était, hélas pour lui, il n'est plus avec nous, mais il était dans le milieu artistique depuis très longtemps et bruiteur depuis 15 ou 20 ans. Donc il m'a fait comprendre que si je voulais venir le voir, peut-être qu'il pourrait me dépanner sur le flanc au travail. Et puis lorsque je lui ai demandé est-ce que j'aimerais bien être bruiteur, ben, il m'a dit viens. Et quand il a vu que je voulais être bruiteur, il m'a dit bon écoute, je te propose d'être bruiteur, mais je ne te garantis rien. Si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, ne m'en veux pas. Mais il faudra que tu sois lucide et que je trouve un autre métier. Donc je me suis accroché et ça fait presque 30 ans que je fais ça.
Ah oui, en effet, quand même. Ouais. C'est
pas... Oui, je suis jeune.
Hein. C'est-à-dire vous êtes formé au jour le jour sur les plateaux.
On s'est formé, oui, c'est une formation avec un autre bruiteur, avec d'autres bruiteurs, puisque j'ai travaillé pratiquement tout de suite à Radio France et j'ai fait tous les collègues bruiteurs. Je travaillais un petit peu une journée avec l'un, une journée avec l'autre, pour voir comment on travaillait sur un plateau de radio déjà. Et puis les relations avec les comédiens, ce qui m'a beaucoup impressionné, parce que les premières émissions que j'ai faites, les comédiens avec qui j'étais, ils tenaient l'affiche. Ils étaient dans tout Paris, sur les colonnes Maurice et dans les entrées de cinéma. Et j'étais très impressionné. Vous vous rendez compte, j'arrive d'un milieu qui n'a rien à voir avec l'artistique et je me retrouve avec des comédiens comme ça qui me disent mais tu peux me tutoyer, nous faisons le même métier. Oh, encore plus. Alors là j'ai dit non, je tutoie le gratin là. Et c'était très étonnant parce que on voit aussi l'envers du décor, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a un comédien, on lui dit bon c'est à toi, il se lève, il avait très très mal dans le dos, dans les jambes, il avait beaucoup de mal à se lever, et je dis ça c'est marrant parce que c'est l'envers du décor où on le voit pimpant devant au cinéma et puis derrière oulala j'ai du mal à me lever.
Ah oui, qu'on n'imagine pas du tout. Et c'était dans ses débuts à Radio France, c'était des pièces radiophoniques, c'était quel
oui,
type
oui,
de...
ce sont à l'époque on appelait ça des dramatiques, maintenant on appelle ça des fictions. C'est quand même mieux, c'est dramatique, ça veut dire c'est très honnête. Donc là, on appelle ça des fictions.
Radio France, c'était aussi...
J'ai fait aussi un peu de cinéma, puisque mon oncle faisait aussi un peu de cinéma, donc j'ai fait quelques films. Hein.
Vous avez travaillé sur quel film?
Ça va dater un petit peu. On a refait la bande originale, par contre, d'un film qui s'appelait L'Extravagant Mr. Deeds, avec Gary Cooper. Et parce que il devait repasser à la télé, mais il n'y avait plus de matériel qui pouvait lire la bande son.
Ah, ouais.
C'est-à-dire que pour ce film qui est repassé à la télé, tout a été refait, y compris les doublages. C'est-à-dire que la personne qui a doublé Gary Cooper n'était pas celui qui avait doublé au premier coup. Hein, c'est extraordinaire quand même de refaire un film comme ça, parce que il n'y a plus de matériel et c'est angoissant, parce qu'aujourd'hui, quand on va vouloir écouter un vinyle dans quelques années, on va dire oh bah non, qu'est-ce que c'est votre truc ringard, nous c'est le MP3, il y a que ça qui est là.
Parce qu'il doit représenter un travail colossal. Vous avez travaillé à partir des consignes de quelqu'un qui connaissait très bien la bande sonore originale, ou alors il a fallu vraiment créer, imaginer ce que pouvait être.
C'est pas très difficile, c'est notre métier de refaire, des bandes. Quand on fait les bandes son pour les versions internationales ou les versions françaises, vous savez, par exemple, le type qui tape à la machine et qui parle à un moment donné, ou qui a quelqu'un qui est derrière lui qui parle. Bon, dans la version française, on double la voix, mais il continue quand même à taper à machine à écrire. Hein. Donc, faut refaire tout ce qui est machine à écrire.
Par exemple, de quoi, si c'est pas un secret, de quoi on se sert pour faire une machine à écrire ?
Ce qu'on a fait, au juste, mais c'était assez dur à faire, hein, parce que le type s'arrête, reprend, machin. J'ai fait beaucoup de choses, donc je me rappelle pas forcément.
En 30 ans de carrière de bruteur, c'est certain que ça fait pas mal de choses.
Ce ne sont que des souvenirs que nous avons de ce qu'on a fait, mais pour placer directeur spécialement.
Bon, on verra, nos audinos auront la chance de découvrir ce que vous avez bien voulu amener, quelques petits objets pour.
Entre deux animations, entre deux ateliers. Et c'était assez. C'était juste le créneau qu'il fallait. Hein.
Et justement, par rapport aux objets, à vos outils, vous avez dit durant l'atelier que vous exerciez un métier de récupération. Est-ce que vous pourriez développer ?
Oui, de récupération, parce que, bon, là, vous voyez, j'ai une bouteille. Ouais, on va pas dire c'est du whisky, hein, mais une petite fiasque de whisky là, qu'on met dans la poche et qu'on boit en douce. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, on peut en faire la bouteille qui se dévisse. C'est vrai que c'est spécifique. Une bouteille de whisky, c'est pas une bouteille de Bordeaux. Mais à part ça, on peut en faire d'autres choses. Alors moi, ce que j'en ai fait, je vais le faire sur votre micro, parce qu'il faut que je lâche le mien là.
Donc un peu d'eau sur le verre de la bouteille, ouais.
Un bout de polystyrène. Ça peut être soit des petites souris, soit une écriture, vous savez, les écritures à la plume. En temps, on peut aussi faire ça. Aussi faire grincer la plume.
Donc il faut beaucoup d'inventivité pour faire ce métier, mais ça veut dire que chaque bruteur a des objets un peu fétiches comme ça de récupération, où il y a des codes généraux, des habitudes.
Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire autrement que de faire ça. Hein. Tout à l'heure vous avez vu la neige, j'ai pas pensé à en prendre. Mais on a eu beau dire on va essayer d'inventer, de faire autre chose. Les anciens, c'est bien gentil, mais on va trouver quelque chose de nouveau, puis on va les estomaquer, là ils vont être scotchés parce qu'on a trouvé un truc révolutionnaire. Bah, pas du tout, on revient à ce qu'ils avaient trouvé eux il y a déjà 50 ans, quoi, presque. Et voilà, donc on est revenu à la fécule de pomme de terre pour faire la neige, c'est tout. Mais il y a d'autres choses, hein. Il y a quand même des petites choses, là, ce que j'ai amené à l'instant, là, ce qu'il y a devant la table. Et j'ai trouvé ça, on a trouvé, parce qu'on a fait, on fait des brocantes et tout ça, et on a trouvé un objet qui avait un son particulier. D'abord, il est beau, il est chromé, il est beau, il a une petite manivelle, une poignée, on a trouvé ça beau, mais s'il y a une manivelle, on s'est dit, il y a un bruit. Alors bon, s'il y a la manivelle, bruit, on a tourné, on a dit au type combien ça fait. Il nous l'a vendu assez cher à l'époque. Mais il n'y avait pas le choix parce que je le voulais absolument, j'avais déjà vu cet objet et j'en ai pas revu depuis, et je suis très content de l'avoir acheté, même un peu cher je trouve, parce que
donc un objet qui a un nom très particulier, je crois qu'on peut le dire.
Je crois que si on lançait ça aujourd'hui, même à l'époque, hein, je crois que c'est voué à l'échec commercial d'appeler un appareil un pulse au con.
Effectivement.
Bien, mais alors vraiment, faut pas être doué pour avoir trouvé ça, hein, ce nom-là. Mais je vais vous faire écouter.
Oui, on veut bien écouter. Alors voilà, on laisse nos auditeurs imaginer ce que ça peut être. Et
on le dira tout à l'heure.
Voilà. Un petit suspense.
Bah je, oui, j'allais dire, c'est la magie de ce que permet la création radiophonique, en fait, puisque contrairement, il y a une différence notable avec le cinéma, où dans le cinéma, les bruits accompagnent font partie d'un ensemble, mais qui est supporté par l'image. La radio permet une très grande part d'imagination, comme vous le soulignez dans l'atelier, où vous avez demandé justement aux participants, aux enfants, de fermer les yeux pendant que vous produisiez des bruits et d'imaginer ce que ça pouvait être. Et les réponses qui ont été faites étaient très diverses finalement, voire inattendues.
Ah bah oui, on propose un bruit et les enfants font travailler leur imaginaire. C'est pour ça qu'on a créé cet atelier. On propose un truc, on leur dit, des fois on a des réponses assez extraordinaires, on ne s'attend pas du tout. Par exemple, tout à l'heure il y avait le tambour de mer. Bon. Ici, ils ont trouvé assez facilement que c'était la marée. Mais à Paris, les enfants n'ont pas cette habitude de la mer, qui est le flux et le reflux de la mer. Ils disent, ah, c'est le périphérique. Périphérique, oui, d'accord, c'est le périphérique. Bon, ben, c'est leur imagination de Parisien. Et nous, on a l'imagination.
Oui, ça fait référence à des choses dont ils ont plus l'habitude dans leur quotidien, forcément. Ouais. Tout à l'heure, il y avait un feu de cheminée aussi dans l'atelier. C'est vrai que de moins en moins d'enfants connaissent ce petit son. Noël Guichard nous a rejoint. Si vous souhaitez participer, évidemment, avec plaisir, merci.
Bah d'ailleurs, le feu de cheminée, les matériaux qui sont utilisés pour créer ce feu de cheminée sont une très belle idée poétique, puisqu'il s'agit en partie d'anciennes bandes de lina, donc qui devaient comporter nécessairement bruitage, fiction, qui étaient promises à la destruction et qui servent pour bruiter, créer un feu.
Oui, d'ailleurs, je fais voir une bande. Une émission montée et complète dans une boîte prête à diffuser, que j'ai récupérée dans une benne, puisque Lina a retranscrit quand même tout ce qui était analogique en numérique, mais j'ai récupéré un bout d'un opéra de Verdi, par exemple.
Ah,
on se dit, bon, mais j'ose pas la froisser, celle-là. Elle restera en démonstration pour dire, vous voyez, c'est un bout d'émission, ça. Voilà.
On se demandait quand même, est-ce que c'est uniquement par manque de place, pour des nécessités de stockage, que ces bandes ont été balancées par tonnes, ou c'est parce que de toute façon ça serait détérioré à la longue?
Il y a deux phénomènes. C'est vrai qu'à la longue ça serait détérioré, mais ils réenregistraient, hein. Souvent l'INA reprend des vieilles bandes magnétiques qui remettaient sur des bandes magnétiques plus modernes, mais ce qui a tué l'analogie, c'est le numérique. Donc maintenant c'est vrai que la bande que je fais voir en démonstration, je disais tout à l'heure, j'ai 20 minutes, maintenant j'ai regardé, c'est presque une demi-heure, puisqu'il y a les temps sur la bande qui sont marqués. C'est presque une demi-heure, alors que sur un compact, il y a entre une heure et demie et deux heures d'émission, hein, suivant comment on travaille.
Comment on compresse le son.
Voilà, c'est quinte de place, puisque ça fait très peu d'épaisseur, hein, un compact, c'est pas grand, alors que la boîte fait combien? 25 cm, un truc comme ça. C'est quand même important. Sur 3 d'épaisseur, c'est quand même.
Alors donc, bon, il y a ce travail avec Radio France. Alors, différentes stations de Radio France.
Je travaille spécialement pour France Culture, puisque c'est là où il y a le plus de fiction, et un petit peu pour France Inter.
D'accord. Travaille avec le cinéma. Puis alors, ces ateliers, c'est une collaboration entre vous deux qui dure depuis longtemps?
C'est une collaboration qui dure depuis 12 ans, on va dire. Hein, c'est en 92, j'ai fait le premier atelier tout seul. Et en 93, nous avons commencé à le faire tous les deux. Et après, on a fait, Noël a apporté des idées. On a amélioré l'atelier en général. Et après, on est parti sur les routes dans les centres de vacances de l'EDF.
Ah, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, anticipe notre question. C'est à l'origine donc dans des centres organisés par les comités d'entreprise.
Oui.
Et pour les enfants, des vacanciers.
Oui, oui.
Ça a eu tout de suite un accueil positif, ces ateliers.
Tu veux répondre,
Noël?
Non. Noël veut pas répondre. Moi, je vais répondre. Oui, ça a été. C'est une découverte d'un métier que les gens ne connaissent pas beaucoup, parce que. En général, dans les salles de cinéma, faut prévoir la séance suivante. Donc, aussitôt qu'il y a le mot fin, on allume la salle, donc tout le monde s'en va. Même si le générique continue à défiler, les gens s'en vont. Ils ne savent pas que tout ce générique qui est très long sont tous des intermittents du spectacle. Et donc je préfère dire des professions artistiques, professions du spectacle, et que tous ces gens, ils ont besoin d'être là parce que c'est une carte de visite, et de dire qu'on a fait participer dans l'élaboration de tel ou tel film, eh bien c'est important pour eux, et ça leur sert parce qu'il y a aussi des professionnels qui regardent les génériques qui se disent, tiens, qui c'est qui a fait ces magnifiques lumières, qui a fait quel caméraman, quel chef opérateur, quel preneur de son, parce que le son est superbe, enfin bon. Et tout de suite, il regarde le générique, il fait, tiens, hop, il relève et il dit à son assistante, tu m'appelleras ce monsieur. Parce que je veux que sur mon film, il soit là.
Oui, il n'y a heureusement pas que des professionnels. Il y a aussi quelques cinéphiles qui restent encore jusqu'au bout des séances et qui, justement, recherchent tel chef opérateur, tel éclairagiste.
Mais ne parlons pas de la télévision qui, pour passer des publicités, n'attendent même pas le mot fin
qui sabre le générique ou qu'il passe en accéléré aussi.
Il passe en accéléré, ou à Canal Plus, il passe en accéléré. Comme ça, c'est. Mais c'est une insulte un peu à nos métiers. Je le dis carrément.
Dans ce métier de bruiteur, il y a justement ce repérage par des professionnels. Mais est-ce que c'est un circuit? Bon, donc maintenant, au bout de 30 ans, évidemment, votre nom doit être connu comme ceux de véritables professionnels. Mais au départ, ça s'organise comment? Est-ce qu'il faut rechercher des pistes de travail ou est-ce qu'on s'adresse systématiquement à vous maintenant?
Mais maintenant, tout le temps, il faut chercher des pistes de travail. Là, on va bientôt travailler à Beauvais, c'est-à-dire la semaine prochaine. À Beauvais, ça fait 3 ans que je renvoie du matériel. Bonjour, allô. Et, bon, on tombe pas sur forcément les bonnes personnes ou les bonnes personnes sont mutées ou ont démissionné. Ce qui fait que le dossier, il est perdu. Alors, faut relancer tout le temps. Et là, cette année, on était tombé sur les bonnes personnes. Donc nous allons travailler à un autre festival de films à Beauvais vendredi de la semaine prochaine.
Alors comme support visuel dans votre atelier, vous utilisez le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler sur des films d'animation?
Oui, non, mais c'est pas assez en cercle privé. Si on a travaillé déjà sur
des films d'animation, oui.
Moi, en tant que bruiteur en studio
en studio.
Non, je n'ai pas travaillé sur les dessins animés. Les dessins animés, quelque chose de particulier, c'est vrai, parce que je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Puisqu'à un moment donné, il faut choisir. On fait le cinéma, on fait la radio. On ne peut pas faire les deux. C'est très difficile. Et à l'époque où j'ai commencé, la radio m'offrait 4 à 5 jours de travail par semaine. Que demande-t-on autre que cela? Et quand même, ce que je disais tout à l'heure, les rapports entre les comédiens et le bruiteur, et ça, ça n'a pas de prix. Par rapport à une salle toute noire où on est devant une.
Puis alors les.
Même si c'est mieux payé. Mais bon.
Ah oui. Ben oui, c'est important quand même. Les rapports avec les preneurs de son, vous l'avez abordé tout à l'heure dans l'atelier aussi. Est-ce qu'en général ils sont bons? Et en tout cas, c'est vrai que c'est important que ces deux.
Radio France, ils sont pas mal, hein. Ils sortent des écoles spécialisées et on est quand même assez bien ensemble. On se connaît bien et ils font quand même l'effort. Ceux qui arrivent, les nouveaux, font l'effort de compréhension du bruiteur, etc. Et nous, on essaie quand même d'avoir des relations privilégiées entre nous pour. Justement pour la qualité du travail, parce que s'il ne veut pas nous aider, il ne nous aide pas, là, on va se faire un bide. Là, on est deux personnages, moi je propose un bruitage, c'est lui qui donne l'âme du bruit, c'est lui qui en fait autre chose. Et voilà, on a intérêt à être en relation sympa tous les deux.
Et quand vous écoutez des fictions radiophoniques ou vous regardez des émissions télévisées, des fictions télévisées ou autres, est-ce que vous arrivez à vous départir justement de votre expérience professionnelle et avoir, j'allais dire, une écoute vierge comme le spectateur lambda, l'auditeur lambda, ou est-ce que justement peut y avoir, est-ce que vous recherchez
C'est difficile, hein, parce que j'ai vu un feuilleton merdique qui passe depuis de 30 ans à la télévision une fois. Je suis tombé sur un épisode où c'était la caméra cadrait le personnage, Il était en gros plan, et puis on le voyait, ses gros yeux globuleux qui allaient vers la gauche, qui revenaient, qui s'adressaient soi-disant à notre personnage, qui retournaient ses yeux, qui... et d'un seul coup il dit « Excusez-moi, on m'appelle au téléphone ». Il n'y avait pas eu de sonnerie de téléphone. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ces trucs idiots là ?»
Ah oui, c'est certain.
Et je ne sais pas si le public s'en était aperçu, mais moi c'est aussitôt, c'est... tac, il y a un truc qui ne va pas.
Mais Bruiter, parce que là, c'est une formation plutôt autodidacte, enfin, par cet oncle autodidacte. Qui était déjà dans la profession. Oui, mais il existe des formations pour ce métier-là ?
Non,
de toute façon.
Nous devons être, parce que je dis ça au conditionnel, une trentaine de bruiteurs en France, spécialement travaillant à Paris, parce que c'est là où il y a les auditoriums, ou là où il y a le travail. Mais je ne suis pas sûr, parce que, vous savez, on est tous un petit peu égoïstes. Personne ne sait combien nous sommes exactement dans nos métiers. Combien il y a de comédiens, on n'en sait rien. Combien il y a, on ne sait pas, ce sont des suppositions. On ne sait jamais avec exactitude combien il y a de personnes qui travaillent dans un corps de métier.
Mais alors, s'il n'y a pas de formation, et si chaque bruteur redécouvre un peu des objets, on y reviendra d'ailleurs un peu sur ces objets, est-ce que ça se transmet, alors, je ne sais pas, de bruteur en bruteur depuis 50 ans, est-ce qu'il y a un fond, ça reste par exemple à Radio France ou dans, je ne sais pas, dans des studios de cinéma, ce matériel
Alors, le matériel, il n'y a qu'à Radio France qui est stocké, où on a un endroit pour stocker, mais quand on arrive dans un studio... dans un auditorium pour bruiter un film, on vient avec notre matériel.
Chaque bruteur vient avec son matériel.
Son matériel. Et nous arrivons avec le nôtre ici, dans une voiture qui est pleine,
pleine
à craquer. Je rigole toujours quand je fais la démonstration de la neige. Et je me dis que si un jour il y en avait un contrôle de police, on ferait la neige avec la neige.
Ah oui, il pourrait effectivement se poser des questions. Ils n'imagineraient pas forcément que c'est de la fécule de pommes de terre ou de la farine. On va peut-être pouvoir leur dire maintenant, nos auditeurs, on va voir s'ils avaient bien trouvé, qu'est-ce que c'était que cette espèce de bruit de moulinet qu'ils ont entendu.
Nous avons acheté cette chose, cet instrument, parce qu'on a pensé que c'était... Le bruit soit d'une machine à coudre, soit d'un projecteur de film, hein, et parce qu'on s'est dit ça c'est sympa, on va de temps en temps dans des festivals de films, il faut faire un hommage au cinéma, et ça c'est ce qui se rapproche le plus des anciens projecteurs qui faisaient beaucoup de bruit. Maintenant ils en font un peu moins, mais quand même
ça reste encore, ouais.
Il y a le bruitage. Alors le rapport entre la machine à coudre et le projecteur, il est simple, hein, c'est que les frères Lumière qui cherchaient à améliorer le système de projection de film, puisqu'il était monté sur galet et que de temps en temps ça patinait un petit peu, ils ont cherché, pour donner un rythme régulier, à trouver comme une sorte de chenille quoi, qui accroche, qui fasse tourner le film régulièrement à la vitesse donnée. Donc ils ont fait des recherches et ils ont trouvé le système de la machine à coudre qu'ils ont adapté pour le film. Donc c'est pour ça qu'on peut faire soit la machine à coudre, soit le projecteur, et qu'il y a un rapport. Et quand on demande au public quel est le rapport entre la machine à coudre et le cinéma, il y en a un tout à l'heure qui nous dit aucun. Et bien si, il y en a un. Il y a celui-ci. Et sans la machine à coudre, on n'aurait peut-être pas, les frères Lumière n'auraient peut-être pas découvert l'entraînement du film.
Donc c'est un double hommage au cinéma, en fait, d'utiliser ça. Alors, tous les deux, quand vous vous promenez, soit dans le cadre de votre métier, soit comme ça, dans vos loisirs, est-ce que vous êtes toujours obsédé par l'idée de trouver un objet qui pourra avoir un son? Oui, Noël.
Et moi, je suis obsédée par trouver tous les objets qui font du bruit. Quand je vois un objet, je le prends et c'est après que je dis, ça peut peut-être faire du bruit. Et quand j'arrive et que je le montre à Alain, il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, écoute avant. Et puis comme ça, on a pas un grenier, mais au moins...
Un sous-sol,
plein d'objets qui n'ont pas encore été... comment dire, qui n'ont pas...
Vous n'avez pas testé encore leur bruit.
Encore testé. Mais on ramasse tout, quoi, comme des chineurs.
Sur des marchés, ouais.
Raconte-moi le marché dans Savoie.
Ah oui, une fois en Savoie, il y avait un instrument qui était bizarre, on aurait dit un presse-purée, mais ce n'était pas un presse-purée. Et on l'a tout de suite mis en action, et ça faisait un bruit grinçant. Ah, je dis, tiens, on dirait que ce serait une bicyclette, tiens, qui montrait une vieille bicyclette qui monte une côte, là, mais vraiment une vieille bicyclette. Hein. Pas les nouveaux cycles de maintenant. Ah, j'ai dit, ça y est, on le prend. Et qu'est-ce que c'était? Ben, c'était tout simplement pour faire de la confiture de myrtille, le presse-confiture. Et vraiment, comme il était un petit peu rouillé et un petit peu cabossé, ben, c'était beaucoup mieux que s'il avait été neuf. Parce que plus c'est rouillé, plus c'est cabossé, mieux c'est pour nous.
Et c'est de vivre avec un bruteur qui a développé cette fascination pour les objets qui peuvent avoir des sonorités, ou déjà en tant que comédienne ou même avant, il y avait cette idée?
Non, moi je suis les yeux et Alain les oreilles.
D'accord.
Ouais, moi je vois un objet, je le prends, je dis tiens, est-ce qu'il peut faire du bruit? Puis après Alain, il dit bah oui, ça pourrait être ça. Mais moi, à force de vivre avec Alain, bah, je pourrais être une super bruiteuse. Hein. Mais bon, je ne vais pas lui prendre sa place quand même.
Bah, ce qui est formidable, et comme on a pu le voir dans l'atelier, c'est que votre travail permet de jeter un nouveau regard et une nouvelle écoute sur tout type d'objet, en fait. Absolument n'importe quel objet, puisqu'on a pu voir du plus usuel jusqu'au plus inhabituel, comme ce fameux pulso-con. Ce qui est effectivement assez formidable. Sinon, vous parliez de machines à coudre, comme quoi le cinéma évolue avec les techniques de son époque. Vous avez parlé de l'analogique qui était vouée à être remplacée par le numérique. En fin d'atelier, Noël disait que le métier de bruiteur était appelé à disparaître. C'est-à-dire plus précisément.
Oui, je pense qu'il va être appelé à disparaître parce que les techniques évoluent. On demande de faire les choses de plus en plus rapidement. Donc, arrivé à un moment donné, à force de faire rapide, faudra trouver une machine qui va plus vite que l'être humain. Pour le moment, ça va. On est plus rapide que la machine. Mais méfiance, il y a déjà, je sais qu'il y a un ou deux bruiteurs qui viennent avec du matériel, ils viennent avec
C'est-à-dire qu'ils ont une banque sonore préenregistrée?
Voilà. Ou... Oui, parce que comme on visionne les films 15 jours ou un mois avant qu'on vienne travailler dessus, donc il faut préparer on demande pour préparer le matériel quand même, pour l'amener. Donc eux, ils préfèrent le faire sur un échantillonneur. Sauf qu'un jour, ils vont se faire avoir parce que rien ne dit que le preneur de son ne va pas l'enregistrer en même temps. Et donc, un jour, on dira, bon, on n'a pas besoin de toi. Puis pour faire... Pour faire des bruits artificiels, on n'aura plus besoin de personne en fin de compte.
Le problème, c'est que ça peut engendrer une standardisation, une uniformisation des sons, justement, et tuer la part créative qu'il y a dans votre métier, bien sûr.
On veut absolument nous faire goûter le vin qui a le même goût que les Américains, sous prétexte qu'ils n'aiment pas notre pinard tel qu'il est fait, alors on leur fait à leur goût à eux, et on veut nous l'empiler, nous le faire obligatoirement avaler, ce qui n'est pas forcément bon à notre goût, mais on veut nous standardiser absolument sur tout. Et puis voilà, bon, on veut être habillé partout dans tout le monde entier, on veut nous faire manger pareil dans le monde entier, on veut nous faire rouler dans les mêmes voitures du monde entier, les mêmes maisons. Ce qui est fantastique, c'est quand on arrive dans un pays par l'avion, on arrive, on se pose, on prend un taxi, un Mercedes, comme dans n'importe quel pays, donc déjà.
Loué par la même marque de loueur.
On prend sur l'autoroute, on passe par des zones industrielles où on trouve à peu près les mêmes. Elles sont faites toutes sur le même type et quelquefois on trouve les mêmes enseignes. Alors on se dit, mais pourquoi on est parti? Parce qu'on se retrouve dans les mêmes choses.
Avec les camions Coca-Cola.
Avec les camions et tout, on a absolument tout. Et donc on va vers cette horreur de standardisation. J'espère que tout le monde va se révolter parce que, merde.
Ouais, ça va venir.
Chacun a son identité. Je trouve que c'est tout à fait normal que nous soyons, nous, avec nos goûts français, que les Arabes aient leur goût à arabe, quand on va au Maroc, on mange des choses marocaines, et non pas qu'on se tape des trucs Coca-Cola et McDo, merde, ça va bien, faut quand même pas charrier.
Et puis c'est vrai que dans le domaine du son, moi c'est quelque chose que j'avais jamais pensé, évidemment, bien qu'on fasse de la radio, mais c'est que beaucoup de choses font les mêmes bruits, hein. C'est vrai que vous abordiez tout à l'heure le fait qu'il y avait un micro-ondes, un caméscope, hein, plein de choses comme ça. Ça fait longtemps que vous avez commencé à remarquer que des sons devenaient très proches.
Bientôt on va être des vieux qui vont présenter les sons qui n'existent plus.
Le moulin à café. Ça fera peut-être un bon métier.
Le moulin à café, je sais pas, un tas de choses comme ça. Et veut absolument plus que ça fasse de bruit, machin, et qui arrive. En ce moment, il y a juste des petites minuteries qui se déclenchent. Alors, on ne sait plus si c'est le micro-ondes, si c'est le four, si c'est la machine à laver. Enfin, c'est quelque chose qui a fait ding. On se dit, ah, c'est quoi? Bon.
Alors, on sait pas. C'est vrai que oui, du coup, dans un film très, très contemporain, ça peut poser des problèmes.
Ah, absolument.
Ah oui.
Il était un précurseur.
Oui, ça annonçait bien tout ça, effectivement. Oui.
Donc, voilà, on va vers ça, c'est horrible.
Et pour en revenir aux ateliers, donc ça commençait plus pour les enfants. Encore maintenant, c'est une majorité d'enfants, le public, ou vous travaillez aussi avec des adultes?
Cet après-midi, on a eu la surprise de voir que c'était tous des gens d'un certain âge et qui sont arrivés. Et il n'y a eu que 2 enfants sur la vingtaine, 20 ou 25 personnes qui sont venues. Mais ça s'est très bien passé parce que, en fin de compte, ils viennent aussi découvrir un métier qu'ils ne connaissent pas. Et puis quand ils s'aperçoivent que c'est... qu'on tripote des tas de choses comme ça et qu'on en fait autre chose, bah ça les amuse et puis on les a dans notre poche aussi. Hein.
Mmh. Et puis les gens sont prêtés de bon cœur. J'aurais pas pensé justement que des adultes, parce qu'on n'a pas tellement dit qu'en fait donc vous montrez comment vous-même vous faites les sons, puis vous suggérez aux gens de mettre la main à la pâte et eux-mêmes de bruiter, ils l'ont fait assez facilement.
Oui. Très
gentiment. C'est parce qu'ils ont gardé leur cœur d'enfant.
Voilà. Et dans le cadre des 8e rencontres cinéma et enfance, donc ça s'est fait comment cette collaboration? C'est de longue date que vous aviez prévu ce rendez-vous?
Non, pas tellement de longue date. J'ai commencé à travailler en Normandie, donc en 92, c'était à Coutances, 92 et 93. Et puis après, il y a eu une longue période où nous n'avons pas travaillé dans des festivals de films. Et puis j'ai un ami qui est comédien qui s'occupe du festival de films d'été à Val-de-Reuil. Et on a travaillé 2 années de suite, et c'est venu aux oreilles d'Elvire Le Cossec, qui est responsable ici des Cinévilles, et qui lui a demandé nos coordonnées. Donc on a été travailler l'année dernière à Gonfreville-l'Orcher, on a été à Fécamp, on a été à Dieppe, là on vient ici, parce qu'on a rencontré Ginette, qui est responsable ici. Et qui nous a dit ça m'intéresse, je vais vous prendre au mois d'avril de l'année prochaine. Ah bon, d'accord, on veut bien. Et puis ça s'est fait vraiment. Et puis on va retravailler à Neuchâtel-en-Bray, on va retourner à Fécamp aussi.
Oh, vous êtes souvent sur la route?
J'aimerais bien faire se balader comme ça. Ça change un peu de la maison ronde de la radio qui n'est pas franchement folichonne, mais au bout d'un moment on connaît tous les studios avec les vices et les avantages de chaque numéro de studio, et puis ça nous change quand même, on voit d'autres personnes et on est très attachés tous les deux aux rencontres des autres et à faire partager notre passion.
Un festival est un lieu privilégié.
Si, c'est très marrant parce qu'on a rencontré une personne qui est grecque, une autre qui est roumaine, 2 catalans, 2 espagnols. c'est assez étonnant. Et à midi, elles étaient, la dame, on n'a pas eu le temps de lui demander d'où elle était. Si, elle était française, mais elle parlait 3-4 langues. Oui, une autre cypriote.
Alors, vous avez apporté, je sais pas comment on dit, un troisième objet de bruitage. Comment vous les appelez, ces objets, d'ailleurs?
J'ai pris une... Comme on est à l'affût de tout, justement, c'est ce qui va illustrer un petit peu les récupérations. On a des choses quand même, le progrès amène des choses intéressantes pour nous. Par exemple, cette boîte, qui est une boîte de polystyrène, où on emballe tous les objets fragiles dedans. Et puis, la fameuse bande magnétique qu'on a récupérée vite fait. Et avec ça, on arrive à faire...
Alors.
Grassement d'une grosse porte.
Eh oui, on reconnaît très bien.
Et puis plus le polystyrène est énorme, plus la porte est énorme. Ah. Ça fait le gros la porte de château médiéval.
Ah ouais.
Et puis, si la boîte est petite, c'est l'armoire de la grand-mère. Hein, c'est donc on récupère ça. Tout à l'heure, vous avez vu, on avait récupéré l'emballage à bulles. Donc on regarde tout ce qui peut nous intéresser. On stocke chez nous, dans notre placard de bruitage, plein de papiers différents, etc. Parce que une facture ne fait pas le même bruit qu'un parchemin.
Ah oui, c'est extraordinaire comme ça, effectivement.
On va se quitter sur quelque chose.
Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah.
Si on est amoureux, on a tendance à rêver.
Magnifique.
Voilà.